Les informations, Alexandra Dubouchereau. Bonjour Alexandra.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Afghanistan. Des élections législatives et locales qui seront très scrutées. D'abord parce que la menace sécuritaire est omniprésente. Les talibans ont lancé un appel au boycott et à la violence. 9 candidats ont déjà été tués durant cette campagne. Ensuite parce que cette élection intervient avec plus de 3 ans de retard sur le calendrier initial. Le mandat des parlementaires afghans a pris fin en 2014, mais le président Ashraf Ghani l'a prolongé en toute illégalité. Il s'agit donc de légitimer aujourd'hui les institutions afghanes. Reportage de Samia Ghezali à Kaboul.
Dans l'ouest de Kaboul, Mariam, 25 ans, rentre chez elle. Elle ne cache pas sa déception concernant les députés au Parlement.
Ils ne travaillent pas quand il fait jusque-là.
Est-ce que voter pour un jeune candidat l'inciterait à se rendre aux urnes?
Ça ne changera rien.
Près d'elle, sa mère Sohaila secoue la tête.
J'avais voté pour Ashraf Ghani et maintenant il n'y a pas de travail, les hommes sont à la maison, au chômage, qu'a-t-on gagné?
Dans une rue voisine, Sabira, 40 ans, sort du travail. Elle est femme de ménage, son mari et ses deux fils sont au chômage. Aucun d'eux n'ira voter.
Les députés ne servent à rien, ils n'ont rien fait jusque-là. Pourquoi cela changerait? Mon fils vient de terminer ses études d'informatique, il est au chômage. Pour en trouver, il faut être pistonné.
Ramesh, lui, ira déposer son bulletin dans l'urne.
Au Parlement, les chefs de guerre sont puissants. Moi, je veux voter pour un homme simple.
Ali, lui, n'est séduit par personne.
J'ai regardé, vérifié les CV des candidats et aucun ne m'intéresse. Ils veulent juste aller au Parlement pour avoir du pouvoir, remplir leurs poches, dominer les gens, mais pas les servir.
À cette défiance de la population à l'égard des députés s'ajoute la hantise d'une répétition du dernier scrutin présidentiel, entaché de fraudes électorales et menant à une grave crise politique.
Samia Ghezali à Kaboul pour France Culture. A noté que sur les 2560 candidats, 417 sont des femmes. En Syrie, le groupe État islamique libère 6 des 27 otages de Souida qu'il détenait depuis fin juillet. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes auraient obtenu en échange la libération de plusieurs prisonniers ainsi qu'une rançon. Sous la pression internationale, Riyad a reconnu cette nuit sa responsabilité dans la mort de Jamal Khashoggi. Le journaliste saoudien a disparu à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre dernier. Selon les autorités, il s'agirait d'une rixe qui a mal tourné et non d'un ordre d'exécution. Une version jugée crédible par le président américain Donald Trump. Faut-il encadrer les arrêts maladie? En France, ils ont augmenté de 15% en 18 ans, soit 1 milliard de dépenses supplémentaires, 1 milliard d'euros de dépenses supplémentaires en 7 ans. Le gouvernement cherche une solution et Laurent Kramer, le Premier ministre, reçoit ce matin la première partie d'un rapport sur le sujet.
Réduire tout d'abord ou tenter de réduire la souffrance au travail. Trop d'arrêts maladie dans une même entreprise, bien au-delà de la moyenne nationale ou du secteur d'activité, devrait alerter les pouvoirs publics, reconnaît le patronat. Il faut donc imposer à ces entreprises en difficulté les bonnes pratiques, limiter les arrêts de longue durée en accompagnant le retour au travail avec les mi-temps thérapeutiques. Il y aurait malgré tout trop d'arrêts maladie de complaisance, 15% selon la ministre de la Santé, imposée un contrôle systématique au quatrième arrêt de travail permettrait de limiter la casse, explique le patronat. Un référentiel en nombre de jours pour chaque type de maladie est également avancé, solution qui existe déjà en pratique, soulignent les médecins, pour qui l'essentiel des dépenses reste concentré sur les arrêts maladie de longue durée, avec en réalité des salariés qui tirent sur la corde, incapables de s'arrêter et épuisés. Leurs arrêts durent alors plusieurs mois ou plusieurs années.
Jean-Luc Mélenchon réclame l'annulation de la perquisition de cette semaine au siège de la France Insoumise et la restitution de tout ce qui a été prélevé. Le dirigeant de la France Insoumise dénonce une offensive politique de la Macronie contre son mouvement. Hier, sa conseillère Sophia Chikirou a été interrogée par la police anticorruption dans l'enquête sur les comptes de campagne de la France Insoumise. En sortant, elle s'est dite soulagée d'avoir pu démontrer la vérité sur sa probité. Quant à l'affaire concernant François Fillon, affaire d'emploi présumée fictive, vif de la femme de l'ex-candidat de la droite à la présidentielle. Les juges d'instruction ont terminé leur enquête. Il revient désormais au parquet national financier de prendre ses réquisitions. Hier, l'un des quatre mis en examen, l'homme d'affaires Marc Ladrette de la Charrière, a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans le Béarn, les pro-ours veulent transformer les randonneurs en lanceurs d'alerte. 15 jours après le lâcher de deux ours, Claverine et Sorita, la menace des Antilles plane toujours. Des éleveurs, notamment, qui, s'inquiétant pour leurs troupeaux, risqueraient de vouloir chasser l'ours. Du coup, le collectif Cap Ours lance un appel à la vigilance en ce début de vacances. Sabine Matraire est de l'association Férus.
Il y a quelques années, les opposants à l'ours avaient mis dans la nature des pots de miel remplis de vers pilés. Donc en effet, si on trouve ce type d'indice, c'est par exemple des emballages de poison qui n'ont rien à y faire, une agitation inquiétante sur un secteur présent de l'ours, s'il y a des tirs en l'air, etc. Ça peut être aussi des animaux morts, malheureusement, puisqu'on sait bien que quand le monde agricole empoisonne finalement des carcasses, ça a des effets aussi sur toute la faune locale et donc on peut trouver en effet des micro-mammifères, des renards morts. Tout ça, c'est un signe en effet qui peut être mortel aussi pour l'ours et le loup aussi, puisqu'en fait toute la faune peut malheureusement y passer.
Sabine Matraire de Férus avec Stéphanie Mora de France Bleu Occitanie. Direction l'Espagne, à présent à Barcelone, mieux vaut tard que jamais. 136 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia, cette emblématique basilique, chef-d'œuvre jamais achevé de Gaudi, obtient enfin son permis de construire. C'était pourtant essentiel pour moderniser l'un des sites touristiques les plus visités d'Espagne. Une curieuse histoire que nous raconte ce matin Mathieu de Taillac depuis Madrid.
Depuis 1875, les constructeurs de la Sagrada Familia n'avaient qu'un petit papier à tendre aux autorités, une autorisation d'une mairie de quartier obtenue par Gaudi lui-même et jamais mise à jour, aucun permis de construire moderne en bonne et due forme, alors qu'ils construisent le bâtiment le plus emblématique de la ville, un oubli, une négligence ou une irrégularité qui est maintenant réparée. La mairie est parvenue à un accord avec la fondation qui construit la basilique. Cette dernière s'engage à payer 36 millions d'euros, une somme qui devra permettre à la mairie de rénover l'entourage et d'améliorer les transports en commun, dont une sortie de métro qui permettra d'accéder directement au temple. La facture sera réglée en 10 ans, c'est un peu plus que le temps qui nous sépare de la fin de la construction, prévue en 2026.
Mathieu de Taillac, correspondant de France Culture à Madrid. Le temps de ce samedi, c'est très simple, du soleil quasiment partout, 17 à 26 degrés pour les températures.